Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud.
Alors on va parler encore une fois du coup, on en a parlé, mais il y a une telle demande que il nous a semblé important d'approfondir la réflexion sur la notion de couple. Alors, il est écrit dans la Torah, « L'otov adam liot levado », il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est très intéressant, Rashi nous dit, parce qu'il va se prendre pour Dieu. Et c'est extraordinaire, d'un point de vue psychologique, de savoir qu'un homme, s'il ne partage pas sa vie avec une compagne, très vite, il va s'enfermer dans une attitude où il va s'auto-suffire. Dieu, la définition, enfin, il n'y a pas de définition de Dieu, mais une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il n'a besoin de rien. Par définition, il s'auto-suffit. Le manque, c'est un des composants de la création, puisque la création par rapport au créateur étant par définition éphémère, et étant par définition quelque chose qui n'est pas nécessaire par rapport à la nécessité absolue du créateur, dès qu'il y a création, il y a manque, il y a donc un besoin d'autre chose que soi-même, ce qui n'est pas le cas du créateur qui est absolu, éternel. Et donc quand un homme ne se marie pas, il rentre dans une sorte de logique où il s'auto-suffit. Rashi nous dit, il va se prendre pour Dieu et il va s'auto-suffire. Il va donc développer toute sorte d'une existence autour d'une auto-suffisance où il va créer il va s'auto-satisfaire. Il va passer sa vie où l'autre n'est qu'un instrument de son plaisir. Aujourd'hui, la modernité ne fait que cela. Je suis persuadé que dans les 50 prochaines années, on va créer des poupées commandées sur Internet, où le physique correspondra exactement à mon désir, où la psychologie correspondra complètement à mon désir, et on va créer des poupées qui ressembleront en toutes choses aux hommes, aux femmes plutôt, ou peut-être aux hommes aussi d'ailleurs, et les gens vont choisir sur Internet leur compagne. Et ça sera une projection de ses propres désirs, ça sera absolument une solitude. Et ça sera terrible, parce que bientôt, les rabbinim, dans 50 ans, ne vont pas se battre contre les mariages mixtes. Ils vont se battre contre les mariages avec les poupées autonomes qui vont avoir une apparence absolument humaine et qui, vous rendez compte, correspondront à tous mes fantasmes, à tous mes désirs, à l'idéal que j'ai de la femme ou de l'homme qu'on pourra choisir ou modifier sur ordinateur selon l'évolution de mes désirs et de mes envies. Vous rendez compte, c'est une horreur, ça a l'air sympa, c'est une horreur absolue. Ça veut dire que l'homme n'est plus capable d'être à deux. Il vit complètement en lui-même, où l'autre, où l'altérité devient assujettie 100% à ce que je veux moi, il devient un petit dieu, une petite idole qui détruit tout le sens de l'humanité elle-même. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, l'otov, c'est-à-dire que le tov, la notion de l'altérité, la notion d'être à deux, elle est liée au bien, à la notion du bien. L'homme arrive au bien quand il est à deux. L'homme ou la femme n'arrive au bien que quand il est à deux. Pourquoi ? Alors c'est très simple. Vous savez que le tov dans la Torah, c'est ce qui va vers une direction. Comme la tara, c'est une fenêtre. Ça veut dire que ça va vers la lumière. Le ra, ça veut dire tout le temps quelque chose qui est le présent, qui est coupé du sens, coupé de quelque chose qui veut dire quelque chose, coupé d'un futur. C'est comme la touma, en hébreu, pour asim, tum tum, ça veut dire fermé. Quelque chose qui est fermé en soi, qui n'a pas d'avenir. Or, c'est ça la notion de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, et c'est une définition magnifique que la Torah donne, l'humain, il est méod. Méod, ça veut dire il est plus. C'est l'anagramme de plus, l'excès. C'est-à-dire que l'homme n'est pas que ce qu'il est. Il est aussi autre chose que lui-même. Et il vérifie cet élargissement de soi-même dans le rapport du couple. Et si quelqu'un passe à côté de cette expérience de devenir l'autre et que l'autre devient moi, si quelqu'un passe à côté de cette expérience du double, ça veut dire que je ne réalise mon vrai épanouissement que quand je suis pour l'autre, alors il passe complètement à côté de son humanité profonde, il est dans l'écorce de lui-même, il est que dans le rapport jouissif, immédiat, animal, de lui-même à lui-même. C'est très extraordinaire de voir ça. L'Agma nous dit que l'homme, Vayatzer, a été écrit en temps avec deux youds. Deux youds. Et l'Agma dit pourquoi deux youds? Il y a quatre explications. Une explication, c'est monde futur, monde d'ici, le bien et le mal. Et une des explications qui n'est pas réfutée dans l'Agma, c'est de dire c'est Nekeva Zahar. féminin, masculin. Alors que la première interprétation, qui est l'homme est composé de Yatzer Hara et Yatzer Hatov, d'un penchant du bien et d'un penchant du mal, est rejetée par la Gemara, Matkif est rejetée de façon violente, en disant, mais non, chez les animaux aussi, vous avez de l'éthique. Chez les animaux aussi, vous avez du bien et du mal. Vous avez des animaux gentils, des animaux méchants. Vous avez aussi, chez les animaux, une sorte de choix entre le bien et le mal. Et quand la Gemara propose, comme interprétation, que l'homme est double parce qu'il est homme et femme, n'est féminin, masculin, la Gemara ne dit pas, mais chez les animaux aussi, vous avez de la femelle et du mâle. Non, la Gemara ne dit rien. Pourquoi? Parce que femelle-mâle, ça n'a aucun rapport avec le féminin et masculin. Le Zahar Nekeva, le Sod du Noun, le Sod du Zoun, c'est le Sod du Zahar Nekeva, c'est un Sod de l'identité humaine. Chez les animaux, effectivement, masculin et le féminin n'est là que pour reproduire l'espèce. Il y a une identité, il n'y a pas d'altérité. Un loup et une louve ne sont pas essentiellement différentes. Ils sont juste différents biologiquement pour faire des enfants. Le féminin et le masculin sont les deux pans de l'humanité et chacun porte en lui un masculin, porte en lui l'espérance d'une ouverture de son identité vers le féminin qui sera donnée par son épouse. Et l'épouse porte l'espérance d'une ouverture de son identité vers le masculin qui sera donné par son époux. Et ça, il y a un élargissement de l'identité, c'est l'essence même de ce que fait l'humain. D'où l'importance cardinale du couple. Or, le couple en hébreu se dit kafoul. Kafoul, d'où vient le mot d'ailleurs, enfin se dit zouk, mais le mot couple viendrait peut-être de l'hébreu qui dit kafoul. Kafoul, couples, couple, c'est la même racine. C'est la notion du double. Double, ça se dit en hébreu kafoul. Mais kafoul, c'est une notion extraordinaire. C'est pas 1 plus 1 font 2. Kafoul, c'est quand même une même chose, est en même temps 2 et en même temps 1. On va expliquer. La notion de kafoul, de double, de dédoublement, elle est essentielle. Elle est essentielle, un, d'abord parce que elle est pas simplement au niveau d'ailleurs du couple. Elle est comment vivre le moment, l'instant, l'existence, à un double niveau. À un niveau du temps et à un niveau de l'éternité. C'est ce qu'on appelle des instants d'éternité. C'est-à-dire, sommes-nous capables de vivre un instant dans la pleine plénitude charnelle de l'instant, pas comme un mystique qui est dans la négation de la vie charnelle, qui est dans la négation de la vie réelle, pour se projeter dans l'éternité, ce qui est pas mal, mais c'est pas du tout ce que la Torah dit qu'il faut faire. Vivre dans l'instant. Donner à l'instant, à l'éphémère, sa beauté. Il y a quelque chose de magnifique dans un échange, un sourire avec un enfant qui va être juste le temps qui passe dans la rue. Il y a quelque chose de magnifique dans la respiration face à l'océan qui va aussi, bientôt la nuit va tomber, ce moment du crépuscule va disparaître. Il y a quelque chose de magnifique dans le moment où, seul ou avec quelqu'un, j'échange une idée qui va après passer à autre chose. Il y a dans le temps éphémère un sens de l'éphémérité qui renvoie en trace à quelque chose de plus profond que l'éternité de Dieu. Mais il faut être capable d'apprécier l'instant. Il faut être capable aussi d'apprécier la charnélité, ça veut dire l'expérience physique du temps présent. Mais si on se limite à cela, on tombe très vite dans l'hédonisme, on tombe très vite dans le non-sens, on tombe très vite dans un moment qui suit un autre moment, et on n'a pas l'unité de ces moments. Et donc, il y a une double dimension, et c'est là où c'est très dur de vivre il faut une initiation spirituelle, c'est un exercice quotidien, d'être capable d'arriver à cette notion du double, où l'instant est en même temps éphémère, en même temps dans sa plénitude charnelle, et en même temps, c'est un instant d'éternité. C'est-à-dire quoi, c'est un instant d'éternité? Il renvoie à quelque chose qui est éternel. Un instant n'est valable que s'il renvoie à une idée d'éternité. Il y a des moments comme ça que chacun a dans sa mémoire, des moments pourtant qui ne sont pas forcément les plus extraordinaires, où à un moment donné, ce moment reste inscrit dans ma mémoire, à jamais. Pourquoi? Parce qu'il renvoie à une énigme, à quelque chose en moi qui a lieu, qui a trait, qui a affaire avec quelque chose d'éternel en moi. C'est cette correspondance entre l'éternité et l'éphémère qui est une des dimensions du double, du kafoul, qui est essentielle dans l'exercice spirituel de chacun d'entre nous tous les jours. Les grandes sadikim, ils sont capables de vivre ça pratiquement à chaque instant. L'instant est en même temps un instant, mais il est en même temps le réverbère, il est en même temps le miroir d'un enjeu spirituel éternel. Et là, on a du mal à comprendre, mais il faut bien comprendre qu'après la mort, cette somme de millions d'un petit instant va devenir en réalité un immense une éternité. Il va constituer notre éternité, notre paradis, où Dieu préserve, si on a fait de cet instant des choses destructeurs, notre enfer. Il y a dans chaque rencontre un enjeu d'éternité. Il y a dans chaque rapport un enjeu d'éternité. Mais cet enjeu d'éternité ne doit pas nous faire oublier le rapport existentiel, charnel, d'existence dans l'instant. Et cette double, c'est le double, cette double dimension du rapport à l'instant ouvre les portes d'une vraie spiritualité. Vous avez deux tendances, comme d'habitude, qui sont fausses par rapport à la Torah, qui est toujours au-delà, puisqu'elle est la parole de Dieu. Vous avez des personnes qui cherchent simplement d'échapper au monde par une contemplation, par des méditations, en essayant d'être dans un instant qui épouse le rythme de l'éternité, mais en méprisant tout rapport charnel, tout rapport amical même. Un juif boit, dit le chaim avec de l'eau de vie, avec la boucha ou la vodka. Il dit le chaim en buvant et en recevant le coup de l'alcool avec son ami qui sourit dans les yeux. C'est un moment magnifique. C'est un moment qui vaut en soi. Mais s'il ne se résume qu'à cela, il casse l'enjeu d'éternité qu'il y a dans comment je bois, comment dans cette façon dont je bois et dont je communique, que je communie avec mon ami, il y a de l'amour, de l'échange, des échanges de paroles de Torah, tout ce que vous voulez, qu'il y ait une dimension d'éternité. C'est la première dimension du double. La deuxième dimension du double, c'est comment l'infini et l'infini, l'infini et le fini se rejoignent. Et là, on est dans une question très très compliquée que je vais escamoter, que je vais faire très vite. Mais c'est par exemple des questions fondamentales. Quand on parlait par exemple de la création du monde, on dit que Dieu crée le monde. Pourquoi est-ce qu'il crée le monde? Une des raisons que le Hetzraïm, que le Ariza nous donne, c'est parce que ces midot, ces attributs de bonté, ne peuvent s'exprimer que s'il y a créature. Parce que s'il n'y a pas créature, et que Dieu est seul, il ne peut pas exprimer sa bonté. Et donc la création est elle-même la résultante d'une dimension des attributs de Dieu. Ça, c'est une dimension intellectuelle compréhensible. Mais après, si on réfléchit un peu plus profondément, on dit, mais Dieu, il n'a pas besoin de rien, il est au-delà de tout. Il n'a pas besoin de créer des attributs, il n'a pas besoin de ses attributs. Les attributs eux-mêmes sont quelque chose, quelque part, de l'ordre du raisonnement humain. Eh bien, quelqu'un qui réfléchit va réfléchir à ces deux niveaux, oui. Mais au niveau de ma question, pourquoi Dieu crée le monde? Eh bien, j'ai une réponse. Mais je sais très bien qu'il y a un niveau où la question n'a pas de sens. Et donc, je vis entre le fini et l'infini. Dialectiquement, intellectuellement, je suis toujours dans une ligne d'horizon d'incompréhension. Mais l'incompréhension elle-même, qui est liée à l'infini, va modifier complètement la nature de ma compréhension. Ça, c'est encore la notion du kafoul, du double, dans l'exercice de la pensée. Et il y a bien sûr le double au niveau de la relation à l'autre. Et c'est ça qui nous intéresse dans le couple. Ça veut dire que être double, c'est être capable d'être soi, mais d'être l'autre. Et de donner une partie de soi à l'autre pour que l'autre devienne l'autre. Ça allait tellement loin chez les patriarches, chez Abraham, Sarah, Isaac, Rivka, Yaakov, Léa, Rachel, que normalement les enfants, les tribus d'Israël auraient dû être créés, procréés à partir de Yaakov, Rachel et Léa, Zilpa et Bila, qui sont les esclaves de Rachel et Léa, n'ont pas la dignité du peuple juif pour faire des enfants juifs. Un enfant d'un esclave n'est pas juif. Il est maximum Eved Knaani, ça veut dire, même si le père, le géniteur, est juif, si la mère est une chifra, une servante, une esclave, même si elle a une sainteté, puisqu'elle doit faire toutes les mitzvot comme les femmes, une esclave canadienne. C'est pas du tout les esclaves comme chez les goyim, à coup de fouet, pas du tout, on n'a pas le droit de les frapper, on doit les nourrir, on doit faire les mitzvot, c'est une élévation spirituelle extraordinaire, mais ils ne sont pas juifs. Comment ça se fait que 4 des tribus d'Israël étaient engendrées par des esclaves? Parce qu'en réalité, c'est le secret du double. Zilpa était la doublure absolue de Léa. Et Bila était la doublure absolue de Rachel. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'être doubles. C'est-à-dire que Rachel aimait tellement Bila, et Léa aimait tellement Zilpa, que quelque part, et Zilpa et Léa aimaient tellement leur maîtresse, que quelque part elles sont devenues elles. Et donc au point, aujourd'hui c'est plus possible en halakha, mais au point où les enfants qui sont nés de Zilpa, c'était les enfants de Léa. Et les enfants qui sont nés de Rachel, sont de Bila, c'était des enfants de Rachel. C'est-à-dire, c'est extraordinaire de voir qu'une capacité de se dédoubler, de devenir l'autre au point où même les enfants qui naissent d'un autre sont mes enfants. Ça, c'est le maximum d'arriver au double. Or, le couple, c'est cela. Le couple, c'est cette capacité d'unir sa vie avec quelqu'un d'autre, ou à partir du moment où je me marie avec cette personne, où j'épouse cette personne devient une partie de ma chair, et moi, je deviens une partie de sa chair. Et c'est un élargissement de la vie. C'est un élargissement de la vie. Je vais vous raconter deux histoires pour comprendre cette idée qui est fondamentale dans le couple. Il y avait une fois, d'abord une histoire vraie, comme quoi on ne choisit pas quelque part son épouse, on est choisi par elle. Dieu a déjà choisi pour nous. La notion de achot, vous savez que les Abraham, Yitzhak et Yaakov ont toujours un rapport entre la fraternité et le matrimonial. Abraham a fait passer deux fois sa femme pour sa sœur. Yitzhak a fait passer aussi sa femme pour sa sœur deux fois. Yaakov s'est marié avec deux sœurs. Il y a un rapport entre la fraternité et le mariage. Quel rapport? En hébreu, achot. Les achot, ça veut dire souder. Quelque chose qui a été déchiré, qu'on ressoude. Comme si on voulait nous dire que de la même façon que des frères sont la même chair, ils viennent de la même chair, de la même père, eh ben, les deux époux étaient une seule âme qui a été déchirée pour, en masculin, féminin, et l'acte du kiddushim, l'acte du mariage, ne fait que les achot, ne fait que ressouder ce qui a été déchiré. Ça, c'est ça le mariage. C'est-à-dire que dès quelqu'un dit, j'aurais pu épouser une autre personne, ça aurait peut-être été mieux si j'avais épousé une autre personne, il tombe à côté complètement de ce que c'est le mariage. Le mariage, c'est de comprendre que l'autre, c'est moi, donc je pourrais pas choisir autre chose que moi. C'est qu'on était depuis des millénaires supposés s'unir l'un avec l'autre. C'est ça le mariage, c'est ça l'idée du mariage. C'est ce que dit le Rambam Maïmonide, il dit, au début, il dit dans le Chodishout, qu'avant que la Torah ne soit donnée, un homme allait dans le chouk et choisissait une femme, et quand il n'en voulait plus, il la jetait dehors, et la Torah est venue, elle a sanctifié le rapport. Pourquoi est-ce qu'il dit le chouk? Il voulait dire qu'avant que la Torah, avant que le miracle de la Torah n'apparaisse, eh ben, le rapport de l'homme et la femme était un rapport contractuel. Comme j'achète une voiture, j'achète une maison, ce qui me convient, je prends, comme ça convient plus, je jette. Et lui, la Torah dit, c'est pas comme ça. Le mariage, c'est pas, je prends ce qui m'intéresse. Il y avait Bernard Shaw, qui était un juif, qui rencontrait Marilyn Monroe. Et il a dit à Marilyn Monroe, lui dit, oh, on devrait se marier. Vous êtes tellement intelligent. Bernard Shaw était très intelligent et très moche. Il dit, on devrait se marier parce que, avec votre intelligence et ma beauté, on va faire des enfants magnifiques. Et lui, il a répondu, si c'était le contraire, madame, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on se marie pas pour rajouter un plus un, pour faire des... Là, moi, je te donne de l'amour, toi, tu me donnes de l'argent, moi, je te donne la beauté, toi, tu me donnes de l'argent, la sécurité. Tout ça, c'est pas du tout juif. C'est complètement pas juif. C'est pas la Torah. La Torah, c'est que le rapport d'épousailles, c'est quelque chose d'essentiel. C'est retrouver la part oubliée de soi-même. C'est retrouver la part oubliée de soi-même. Il y avait une histoire comme ça extraordinaire qui s'est passée à Bdebra, qui a à peu près une trentaine d'années, où il y avait un homme qui avait une balafre comme ça, horrible. On l'appelait le balafré dans les chivotes, le pauvre. Et chaque fois qu'il faisait un chidour, les filles, elles se sauvaient en courant. Il a fait un chidour, c'est la rencontre dans le milieu religieux. Il était très bien, Baruch Yeshiva excellent, très bonne famille, tout ce qu'il fallait. Simplement, dès que la fille voyait une telle balafre, elle voulait même pas continuer le rendez-vous, elle voulait qu'une chose se saurait. Et donc, il donnait les mains, il était voir Ephraim Kenievski, notre maître. Et il lui a dit, voilà, j'ai ce problème. Et il lui a dit, est-ce que tu as raconté un jour à une des filles que tu as rencontrées pour les chidour, pourquoi est-ce que tu as eu cette balafre? Il dit, non, jamais. Je peux pas raconter, c'est trop intime. Et le Rav Chaim Kenievski lui dit, la prochaine fois que tu rencontres une fille, tu lui racontes pourquoi tu as cette balafre. Et tu auras la bracha. Et lui, il veut pas, mais il est obligé d'écouter le Rav. Et donc, il rencontre une jeune fille, il dit, elle voit là-bas, elle dit, oui, je sais, mais écoutez, rendez-moi un grand service, je dois, vous allez vous en aller dans 2 minutes, aucun problème, mais j'ai promis au Rav Chaim de raconter pourquoi j'ai la balafre. Et elle dit, mais ça m'intéresse pas, je sais, mais je vous demande du chesed. Je veux juste vous le raconter pour écouter le Rav, et après vous partez, je m'en vais, au moins j'aurai fait ce que le Rav m'a dit, et après je serai plus obligé de le raconter. Il dit, bon, si vous voulez, allez raconter. Il dit, mais écoutez, c'est très simple. Il y a 5-6 ans, je me promenais à Petah Tikva, je crois. Et j'entends des cris dans un escalier. Je me précipite et je vois une jeune fille de 13 ans, une jeune fille presque un enfant, qui a failli se faire violer par un arabe à l'époque. Ça aurait pu être d'ailleurs n'importe qui, mais c'était un arabe. Et j'entends ces cris, mon sang ne fait qu'un tour, je me jette sur le bonhomme, je me bats. Lara prend un couteau et me fait ça. Et pour ça, j'ai cette balle-là. Voilà, maintenant vous pouvez partir, j'ai fini de vous raconter l'histoire. Elle le regarde. Elle éclate en sanglots. Elle le regarde et me dit, mais cette fille, c'est moi. C'est moi. Et mon père te cherche depuis 5-6 ans pour te dire merci que tu m'as sauvé d'un viol. Et ils se regardent, éberlués, l'un et l'autre. Et elle lui sourit, il se plaisent énormément, ils se marient et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà une histoire vraie. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Pas pour la c'est impressionnant de voir comment Reb Chaim est capable de donner la clé pour sortir l'homme de son emprisonnement. Comment c'est du Roi HaKodesh. Mais parce qu'en vérité, ce qui paraît du hasard, ce qui paraît quelque chose qui n'a aucun rapport l'un avec l'autre, le conseil de Raphaël, la rencontre de Shido, en vérité, tout était là justement, exactement, pour que ces deux personnes se marient. C'est-à-dire que ces deux personnes étaient à tout jamais deux âmes qui devraient se retrouver et rien ne fera que ça ne se fasse pas. Il y a une autre histoire, elle, par contre, je ne sais pas si elle est vraie, c'est une histoire chassidique. On raconte la même histoire. Où il y a un homme, un garçon fait un chidour, le garçon boit terriblement comme un crapaud, et la jeune fille le voit loin arriver, elle dit, je veux pas rencontrer cet homme, il boite! Et on lui dit, il est venu de loin, et c'est un grand ami Tracham, il est merveilleux, elle dit, oui, je sais, mais vois-le deux minutes, et après, bon, d'accord. Il se parle, et lui, la voit, il dit, elle est très très belle. Il dit, comme vous êtes belle, elle dit, écoutez, non. Et oui, je sais, mais je vais vous raconter quelque chose. Pourquoi je dis que vous êtes belle? Parce que j'ai rêvé de vous. Exactement le même visage, la même beauté. Et dans mon rêve, je vous ai vu arriver vers moi, et c'est vous qui boitiez. C'est vous qui boitiez avec votre robe de mariée en venant vers moi. Et j'ai dit à Dieu, je ne veux pas d'une femme qui boite. Et Dieu me disait, tu n'y peux rien, c'est ton destin. Et j'ai dit, comme ça pendant une heure, c'est ton destin, mais je veux pas. C'est ton destin, je veux pas. C'est ton destin, je veux pas. Et au bout d'un moment, comme j'avais étudié la Gemara, j'ai dit à Dieu, attends Hachem, tu dis dans ta Torah que l'homme et la femme, c'est le kafoul, c'est le couple, c'est l'un et l'extension de l'autre. C'est la même âme déchirée qui se retrouve. Oui? Eh ben, je veux moi boiter, pas elle. Ah, Dieu dit, si tu veux toi prendre l'infirmité de ta femme, il n'y a aucun problème. Puisque vous êtes la même entité au plus profond, tu peux faire passer son infirmité vers toi. Et c'est pour ça que je boite aujourd'hui. Elle le regarde, même histoire, ils se plaisent beaucoup, ils auront beaucoup d'enfants, ils se marient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme dit la morale de ces histoires, quand un homme ou une femme dit à son conjoint, c'est ton problème, pas le mien, c'est une profanation du mariage. C'est une profanation horrible du mariage. Rav Levin, quand sa femme avait mal au genou et qu'ils allaient chez le médecin, ils disaient au docteur, nous avons mal au genou, nous avons mal au genou. Ils disaient pas, elle a mal au genou. La notion du mariage cardinal, c'est la responsabilité que l'autre a une importance. Et qu'occupe ma conscience comme la prolongation de moi-même, et moi je suis la prolongation d'elle-même. Si on n'a pas ça, on est dans le contractuel, et non on est dans le donnant-donnant, on n'est plus du tout dans le mariage juif tel qu'il doit être. Il faut prendre le risque d'élargir son existence, d'élargir son identité. Il faut prendre le risque du dessaisissement, il faut prendre le risque de rompre avec l'égotisme, avec la crispation, la peur. Il faut prendre le risque d'être double. C'est ça la notion même du mariage. Il faut absolument éviter la tentation d'essayer de formater l'autre selon mes désirs, parce que ça serait encore dommage. L'autre est riche. L'autre est riche d'horizons nouveaux, de rivages nouveaux qui vont émerveiller, ouvrir ta conscience, ouvrir ton cœur, ouvrir des sensations que tu n'aurais jamais pu ressentir si tu n'étais pas à deux. Donc c'est ça la notion du mariage. Mais encore de façon plus profonde. Il écrit un des psukim où on apprend les lois du mariage. C'est de façon tout à fait extraordinaire, tout à fait paradoxal. Quand Abraham va acheter le caveau où sont enterrés Sarah, Adam, le premier homme, Chava, Ève, Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. Le caveau des patriarches s'appelle Maharat HaMachpela. Encore une fois, on retrouve cette notion de Machpela, de double. On trouve encore cette notion de double. Or, d'après, tout le monde dit qu'Abraham a traversé 10 épreuves. Et la plupart, d'après tous les rishonim, d'après tous les grands commentateurs du Moyen-Âge, le dixième épreuve, et ça allait en crescendo, les épreuves. L'épreuve la plus dure, ça a été, bien entendu, la sacrifice, la Akadat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, lui, Abraham, qui est tout amour, qui toute sa vie a combattu contre les sacrifices humains idolâtres. Tout d'un coup, Dieu lui demande un acte anti, absolument anti tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il est l'incarnation de l'amour absolu, on lui demande de tuer la personne qu'il aime le plus au monde, son fils. Il est l'incarnation du témoignage du monothéisme qui est contre le paganisme des sacrifices humains, Dieu lui demande de faire un sacrifice humain. N'importe quel homme qui aurait été juste spirituel, juste intellectuel, aurait dit à Dieu, écoute, Dieu demande-moi de me jeter par la fenêtre, d'accord, mais ne me demande pas de faire quelque chose qui est contre toutes mes convictions et contre mon essence. Et Abraham accepte de le faire, parce qu'il écoute Dieu et qu'il dépasse. Et c'est ça la notion de sainteté, de Kedusha. Il dépasse tous les créneaux psychologiques, anthropologiques. Il atteint le niveau de Kedusha. C'est ça la notion de sainteté. La Kedusha, c'est la capacité d'une pensée, d'une parole et d'un acte dont la racine est absolument divine, qui n'a aucun rapport avec des processus psychologiques. Ce que les psychologues ne comprennent absolument rien. Et Isaac fait le contraire. Isaac est absolument la loi pure qui aurait dû, en réalité, argumenter en disant d'après la loi, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Il fait un acte d'amour. Donc, Abraham, qui est absolu amour, fait un acte de rigueur absolue. Et Israël, qui est la rigueur absolue, fait un acte d'amour absolu. Et le Zohar nous dit, l'eau est devenue du feu et le feu est devenu de l'eau. Shamaïm, ça a créé le ciel, c'est la nation de sainteté. Magnifique. Mais vient Rabbeinu Yonah, il dit non, il y a eu encore une autre épreuve après la ligature d'Israël qui est encore plus grande que laquelle ? Celle de devoir acheter le caveau des patriarches. Et là, on ne comprend pas. Quand Rabbeinu Yonah dit une chose pareille, on ne comprend pas en quoi de devoir. C'est vrai qu'il est arrivé, il lui a fait du business, il lui a dit je te la donne gratuitement. Après, il a monté à un prix exorbitant, 400 shekels à l'époque. Ce n'est pas les shekels d'aujourd'hui, 50 pièces d'or, c'est une somme extravagante. C'est vrai, mais ce n'est pas une épreuve par rapport à tuer son fils. Alors le Maharal de Prague nous dit la chose suivante. Il dit oui, c'est la plus grande épreuve. Pourquoi ? Parce que Abraham, en arrivant au caveau des patriarches, c'est le lieu du double. Maharat Amarpela, Hevron, c'est le lieu du double. C'est le lieu où le paradis, l'éternité et le moment se rejoignent. C'est le baiser du divin et du terrestre, du céleste et du terrestre. C'est l'endroit où le double se révèle, plus que le kotel. Si quelqu'un veut voir le double, il faut qu'il aille au Maharat Amarpela, au caveau des patriarches. Donc il s'attend à avoir une révélation sublime. Or, qu'est-ce qu'il arrive? Il voit quoi? Il voit des gens qui le marchandent, qui fait du prosaïsme, qui lui commence à lui marchander, à lui faire des kounsim, comme quelque chose de le plus terre-à-terre, le plus prosaïque possible. Ça fait penser un peu à ces gens qui arrivent au Kotel. Moi, j'ai des amis qui sont arrivés au Kotel, resplendissants d'espoir. Tout d'un coup, ils sont bousculés par des chassidim qui leur demandent de l'argent. Ils sont désappointés. C'est comme les gens qui viennent en Israël, ils s'attendent à voir que des anges, le gars, ils lui jettent un saule sur la tête, le voisin. Quelque part, c'est ça la plus grande épreuve. La plus grande épreuve, c'est pas de faire des grands actes. C'est de rester fidèle à la recherche spirituelle quand la vie, dans son quotidien, dans sa trivialité, dans sa bassesse, te ramène au renoncement de l'espoir et du rêve. Te ramène à renoncer tout simplement à espérer autre chose que la bassesse humaine. La plus grande épreuve pour Rabbeinu Yonah, c'est la fidélité. C'est de rester fidèle à l'envergure spirituelle énorme, alors que la vie, dans son épreuve, te rétrécit tout ça à un niveau absolument nul. Et tu restes quand même fidèle. Et regardez l'extraordinaire finesse de la Torah. On apprend Kira, Kira Mizde Efron, Kika Rishisha, qu'un homme prendra une femme. Kira. Kach Mimeni, dit Abraham. Kach Mimeni, qui dit Abraham, quand il achète le sadé, le champ, de la caverne des patriarches, du caveau des patriarches, il dit, prends, on a le même mot, car. Or, une des techniques d'interprétation de la Torah, c'est que quand un mot est là, un autre mot est là, même s'il est très loin, c'est comme les ordinateurs, il y a un link. Et ben, ce qui est valable ici est valable ici. Donc, on apprend, de la même façon qu'on peut acheter un champ avec de l'argent, avec une bague, et ben, une des acquisitions de l'amour, c'est en donnant une bague à sa femme. De là, on apprend. Et regardez la subtilité. La Torah te dit, apprends exactement de là-bas le mariage. Parce que l'épreuve du mariage, c'est l'épreuve de Rabbeinu Yonah. Au début, c'est magnifique. La vie est belle. Je l'aime, elle m'aime. C'est le romantisme. Elle fait tomber un mouchoir, je me baisse tout de suite, je lui donne. Au bout d'un an, deux ans, trois ans, les enfants, les difficultés, le rêve s'est un peu estompé, on le connaît avec ses défauts, on le voit ronfler la nuit. Bon, il se brosse les dents, c'est plus du tout la grande classe. Tu pourrais commencer à banaliser le rapport, on te dit non. Apprends de Avraham Avinu. La même façon qu'Avraham Avinu est resté fidèle à l'envergure extraordinaire de spiritualité, malgré l'emprise du réel qui voulait abaisser, réduire, profaner le Maratha Marpel à la caméra. Il est resté, il a vu derrière toute cette écorce, il a vu la lumière scintiller du divin. Et bien toi aussi, avec ta femme, ton épouse, ton époux, malgré les difficultés, les fois les engueulades, les discussions, les difficultés économiques, la fatigue, la vieillesse, on voit toujours la beauté de son âme, le pourquoi tu t'es marié. La beauté de son âme reste fidèle au pourquoi de l'amour. C'est un enseignement cardinal que la Torah nous donne. Et donc, pour conclure, on va donner 7 petits conseils, c'est pas nous qui les donnons, c'est nos sages, comment essayer de faire ça concrètement. La première chose, et je le dis d'emblée, c'est pratiquement irrémédiable, il faut absolument bannir, une fois pour toutes, une fois pour toutes, toute parole blessante, l'insulte, la parole blessante, qui a une attaque blessante pour elle, pour lui, une parole qui attaque sa famille, en disant ta mère, c'est un, ton père, des paroles qui insultent le corps de la femme ou le corps de l'homme, une parole humiliante, sont la destruction, sont le poison absolu du couple. Et ça, c'est quelque chose d'indigne. Il faut absolument s'affranchir de toute parole, parce que la parole, c'est ce qui va donner la beauté ou au contraire l'humiliation à l'autre. La personne est constituée par l'autre. Mais le revers de cela, le calvaire de cela, c'est que maintenant, tu es tributaire de l'amour de l'autre. Tu es tributaire du regard de l'autre. Et si l'autre, il te voit, oh, regarde comme t'es moche, regarde comme t'es mal habillé, regarde comme tu sais pas travailler, regarde comme tu sais pas amener d'argent, t'es pas un père, t'es pas une mère, t'es pas une épouse, t'es pas un époux, et ta mère et ton frère. Alors là, c'est le calvaire. C'est-à-dire qu'on s'est pas mis un double, on s'est mis un poids. Un poids qui t'asphyxie. Donc, la parole à l'autre doit être une parole de bonté, d'amour, de respect. Sans ça, il n'y a rien. Sans ça, au contraire, la merveille devient la galère. Le rêve devient le calvaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ce que nous enseigne le Rambam. Il nous donne une clé extraordinaire pour l'équilibre des couples. Oh, Veken sivu chachabim sheyu adam mechabed et ishto yoter migufo. Le texte nous dit, l'homme se doit de respecter sa femme plus que son corps. C'est encore plus que son corps, il y a une chaise, c'est pour elle. Il y a un seul steak à manger, c'est pour elle. Il y a une seule veste parce qu'il fait froid, c'est pour elle. Il y a un seul lit, c'est pour elle. Il y a un seul oreiller, c'est pour elle. C'est pas du moussa, c'est de la halakha. Lechabed ishto yoter migufo. Tu dois respecter ta femme plus que ton propre corps. Ve'ohava kegufo. Et tu dois l'aimer comme ton corps. Ve'imish lo mamon, marbe ve'tovata kefi mamon. Ne sois pas radin. Si un homme a de l'argent, proportionnellement à son potentiel économique, il doit la gâter, lui acheter des bijoux, lui acheter des choses belles qu'elle aime. Ve'lo itol hema yetera. Il n'a pas le droit non plus de mettre une terreur, de faire cette culture horrible de la maison, de l'autoritarisme. Velo imo benachat, la douceur. Velo atse velo ragzam. Et ça, c'est très important. Il ne sera ni triste, ni énervé. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre sa femme comme un punching ball. Il ne peut pas prendre sa femme comme quelque chose où il déverse son ressentiment, sa nervosité, son désespoir, ses dépressions. Non. Tu te dois. Alors, tu ne vas pas te marier. Si tu te maries, tu te dois de rendre joyeux ta femme. Tu te dois de la choyer, tu te dois de la rendre heureuse. Tu dois de mettre autour d'elle une ambiance saine, une ambiance de joie, de simcha, une ambiance de vérité, de Torah. Ça, c'est les obligations de l'homme par rapport à la femme. Quand quelqu'un fait ça, sa femme devient une princesse. Sa femme, pour lui, c'est quelque chose de sacré. Elle devient comme quelque chose dont tout... Et ça importe une bénédiction sans fin. On ne sait pas si on savait les malédictions que l'insulte et l'humiliation qu'un homme procure à sa femme amènent à sa vie. Je vous promets que tout le monde serait des tzadikim ourim. C'est des malédictions en tout, dans la parnassa, dans la santé, dans tout. Et celui qui fait attention à sa femme, ça amène des bénédictions incroyables. Mais de l'autre côté, avec Ensivu Aleisha, nous dit le Rambam Maïmonide, L'homme est, la femme est obligée, chez Tiyé Mechaberet et Baala Yoter Midai. Elle doit respecter son mari trop, même trop, même trop. Elle doit le voir comme un roi. Vei Alab Morim Minovita, c'est comme un simple. Vei Beinek Mosar Omeler, elle doit le voir comme un prince et comme un roi. Le regard de la femme constitue l'homme. Si la femme a confiance en l'homme, elle lui donne confiance, elle lui montre son potentiel, elle lui fait confiance, elle l'admire, elle met en exergue ses qualités, sa force, sa beauté. Et elle va donner des ailes à son mari. Elle fait tout en sorte pour que ce qu'il déteste ne soit pas autour de lui. Et ça, c'est le derrière des Bnot Israël, ou Bnei Israël, Agdoshim. C'est ça la voix des fils d'Israël qui sont saints, théorim et purs, Bezivugan, dans leur couple. Quand on fait ça, ça amène le bonheur et la grandeur dans la maison. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est de respecter sa femme plus que soi. La galanterie a été inventée par la Torah. Quand il n'y a qu'une chose, tu lui donnes. C'est elle. Tu as un souci de son corps plus que ton propre corps et tu l'aimes comme toi-même. Et elle doit donner à son mari cette euphorie, cette grandeur. Elle doit le respecter comme un prince et comme un roi. Si on peut faire ça, c'est bien sûr magnifique. Troisième chose, l'échange. L'échange intellectuel. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir un échange intellectuel avec sa femme. On ne peut pas juste être instrumentalisé par le flux des obligations familiales. Les parents, les enfants, l'école, l'argent, le travail, les courses. Bon, tout ça c'est bien, il faut le faire bien sûr. Mais il est très important de prendre des moments sacrés où l'homme et la femme redeviennent un jeune couple. Même s'ils ont 70 ans, un jeune couple. Ils vont boire un café ensemble, ils discutent ensemble et surtout ils étudient ensemble. Ils essaient de chercher une dynamique intellectuelle où l'un va échanger avec l'autre. Alors vous devez me dire, je vois tout de suite le Yatsara, mais elle ne comprend rien ma femme. C'est pas une intello. T'as pas besoin d'une intello. Chaque personne qui a un esprit a une idée. Justement, sois capable d'écouter l'idée de ce que dit la femme. Sois capable d'écouter l'idée de ce que dit l'homme. L'échange, en s'intéressant à la pensée de l'autre. Amébin Yavin. Maintenant, ce qui est très important, c'est l'espérance commune. C'est la quatrième. C'est-à-dire qu'il est très important de bâtir une famille, de bâtir un couple, plus tard une famille, avec une espérance. Ça peut être l'espérance de faire des enfants tamis des Khamim. Ça peut être l'espérance de bâtir ensemble une maison, avoir des projets communs. C'est très, très important. Cinquième, c'est qu'il faut une absolue harmonie dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des accords jamais devant les enfants. Sixième, ce qui est très important non plus, c'est renouveler le pourquoi des épousailles. C'est-à-dire que c'est de réfléchir, toutes les semaines, tous les mois, redynamiser, renouveler l'amour. Et la dernière, c'est donner. Donner et reconnaître que l'autre donne. Donner, faire des cadeaux, donner. Donner son temps, donner son affection, donner des cadeaux. Et surtout être reconnaissant que l'autre te donne. Ne pas le prendre comme une chose acquise, que les choses sont acquises. C'est très important parce que si on dit dans l'arche de Noé qu'il y avait un oiseau, tous les animaux étaient là, ils voulaient manger. Donne-moi Noé. Jusqu'au jour, un lion, le lion, une fois, Noé était en retard, il l'a blessé. Et un oiseau, il n'a pas demandé à manger. Et Noah a dit à l'oiseau, mais t'as pas faim? Il dit, oui, j'ai faim, mais je vois que tu es tellement fatigué, tellement éprouvé à nourrir tous ces animaux. J'ai décidé de jeûner un peu pour te laisser. Ah, il a dit, parce que t'as pensé à moi, je te donne une bénédiction d'éternité. On dit que c'est un oiseau qui vit très très longtemps. Certaines vues qui se reconstituent, enfin, c'est les midrashs. Il a touché à l'éternité, cet oiseau. On voit ici un enseignement cardinal. Donner. Ne pas juste prendre. Quand tu donnes, tu touches à l'éternité. Tu as une vie où tu n'es pas juste moi, prendre, où tu es défini juste par l'avoir. La notion du don, la notion de l'altruisme, la notion de l'amour gratuit vers l'autre, t'ouvre à l'éternité. Or, l'expérience du couple, c'est l'expérience quotidienne du don et de l'altruisme. Il y a plein de gens, malheureusement, qui font des grandes mitzvahs, qui sont capables de faire un kilomètre pour aider qu'un pauvre, mais avec leur femme, ils ne sont pas capables de se lever quand elle est fatiguée pour l'aider à faire la vaisselle. C'est incroyable. Parce que c'est le Yatsera, il est là. Et le Yatsera, et le Olam Haba, le monde futur, se gagne là. On ne gagne pas tellement avec les grandes choses. Les grandes choses, on se donne l'illusion qu'on fait des grandes choses et la reconnaissance sociale. C'est bien, mais c'est rien par rapport au fait que sa personne ne l'aura jamais vu. Tu dis à ta femme, va te coucher, c'est pas bien à faire la vaisselle. Ou sa femme, elle te fait un petit truc sympa, elle te fait un thé quand t'es fatigué. Une petite chose. Donner à l'autre. Avoir du souci pour l'autre. C'est l'ouverture à l'éternité elle-même, c'est l'ouverture au Lamaba. Aleva Yelenu.
Torahbox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots, Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sauce des vraies Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ichement, mitzvotah, de garder le mitzvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.